Termes 92.7.
À midi une, soyez les bienvenus dans ce Présence Midi. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 13h et bonjour à vous Androïse Jankovic.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Alors on va vous retrouver à plusieurs moments dans cette émission puisque dans un instant, eh bien, on va parler de la Estillade de Bigorre, cette fête populaire de la culture gasconne. Ça va se passer en Bigorre ce week-end.
Oui, ça se passe à Ibos, c'est juste à côté de Tarbes. C'est la 47e édition de la Estillade de Bigorre. Et pour cette Estillade, eh bien, il y a plus de 400 intervenants, chanteurs, danseurs, conteurs qui sont mobilisés et plus de 100 bénévoles voilà, qui se préparent à vous accueillir tout le week-end pour découvrir la culture occitane.
Votre invité dans un instant, c'est Mathieu Carassus, l'une des chevilles ouvrières de l'organisation.
Voilà. Exactement, il est président de l'association.
Votre invité à votre micro dans quelques instants, c'est Elias. Il est séminariste dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, mais il est libanais.
Exactement, Elias qui a 36 ans, qui est séminariste libanais, enfin qui est séminariste du Liban, mais dans et pour le diocèse de Tarbes et Lourdes, et qui va nous donner son témoignage de ce qui se passe au Liban en ce moment, ce Liban où toute sa famille vit encore, ses parents, ses frères et sœurs, ses neveux et nièces. Voilà, il nous dira comment depuis ici, bien il les soutient par leurs prières et quel regard il porte sur ces réalités.
Et on commence dans cette émission dans un instant avec vous et avec l'agenda du diocèse de Tarbes à Lourdes. Auparavant, on accueille dans nos studios Jenélis Thiab, qui est étudiante au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. On la retrouve pour les titres à la une de l'actualité régionale.
Ces associations du Sud-Ouest demandent l'annulation de l'autorisation environnementale de la ligne à grande vitesse Toulouse-Bordeaux. 100 entreprises ouvrent leurs portes pour un job dating géant organisé par le club d'entreprises de l'Ouest toulousain, demain à Colomiers. En Ariège, le passeport autonomie aide les jeunes de l'aide sociale à l'enfance à faciliter leur passage à la vie adulte. La région Occitanie lance Occitanie Bénévole pour soutenir les associations et relancer l'engagement face à la baisse de bénévoles. Trois anciens internationaux champions de France de rugby attendus à Auch pour 2 jours de rencontre avec le public. Et enfin, au château Catala, 11 écrivains ont été distingués par le prix du concours international et francophone des arts littéraires à Saint-Aurens de Gameville.
Merci à Jenny Lietz-Thiab, qui est étudiante au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. C'est à 12h30 hein, qu'on va la retrouver pour développer ses titres dans le journal.
Présence à Millau. 106.5.
Les podcasts de Radio Présence.
Podcasts de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence. Présence dans le Lauragais, 97.9.
L'agenda dans les diocèses, et c'est tous les jours sur Radio Présence. Bonjour Androïse Jankovic.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Avec vous, on va détailler une partie de l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes et un agenda pour démarrer qui va nous amener à cette journée diocésaine autour du bienheureux Pascal Vergès. Ça sera le 25 avril prochain.
Exactement, bienheureux Pascal Vergès qui a été béatifié avec 49 de ses compagnons à Notre-Dame de Paris le 13 décembre dernier. Ils ont tous les 50 été martyrs des camps de travail nazis. Et eh bien dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, depuis le 13 décembre, depuis cette béatification, eh bien nous délectons de découvrir de semaine en semaine un petit peu plus la vie et le visage pastoral et spirituel du bienheureux Pascal Vergès. Et pour cela, eh bien pour aller encore un peu plus au fond des choses, Monseigneur Mika, notre évêque, nous invite le samedi 25 avril à une journée diocésaine, vraiment sur les pas du bienheureux Pascal Vergès. Hein, d'abord un rendez-vous à 15h pour prier sur la tombe du bienheureux Pascal Vergès au cimetière d'Argelès-Gazost à 15h. Donc, nous prierons le chapelet pour les vocations. Donc, nous invoquerons l'intercession du bienheureux Pascal Vergès pour les vocations dans notre diocèse. Rendez-vous donc à 15h au cimetière d'Argelès-Gazost. Et puis ensuite, il y aura à 16h30 une conférence donnée par Monseigneur Jacques Perrier, qui est l'évêque émérite de Tarbes-Lourdes. Ce sera en la salle des fêtes d'Aucun. Aucun, c'est le village natal précisément de Pascal Vergès. Et Monseigneur Perrier nous donnera donc une conférence pour nous parler de sa vie et plus précisément de ce qu'il a vécu dans ce camp de travail nazi, là où il est mort. Et puis à 18h, il y aura en l'église d'Aucun la messe présidée par Monseigneur Mika, donc à 18h, suivi d'un temps festif, un apéritif à 19h avec un temps festif. Voilà pour cette journée diocésaine du 25 avril. Il n'y a pas d'inscription nécessaire. Tout le monde est invité. Voilà, c'est une journée à la fois de prière, de commémoration et puis de fête.
Voilà, samedi 25 avril, ça se passe donc à Aucun, une journée qui est consacrée donc au bienheureux Pascal Vergès, à ne pas manquer, d'autant que ça tombe pendant les vacances scolaires. Voilà, on poursuit l'agenda avec Monseigneur Mika qui invite les diocésains à prier l'Angélus à partir du 1er mai.
Ah oui, puis alors je ne sais pas si vous entendez derrière moi les cloches de l'église Saint-Antoine qui sonnent, puisque je me trouve en reportage à Saint-Antoine aujourd'hui, et les cloches derrière moi sonnent l'Angélus, et c'est précisément l'invitation de Monseigneur Mika, puisque dans une lettre adressée le 31 mars à tous les fidèles du diocèse de Tarbes-Lourdes, Monseigneur Mika propose d'inscrire de manière durable dans la vie spirituelle du diocèse l'amour que nous avons partout en Bigorre et dans les quatre vallées pour la Vierge Marie. Et pour cela, Monseigneur Mika nous suggère un petit outil très simple, c'est de prier l'Angélus chaque jour à midi. Alors c'est pas pour un temps donné, c'est pas un événement, c'est pour toujours, pour que tous les jours de notre vie dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, eh bien on prenne l'habitude à midi, tous les jours, donc de prier cette prière de l'Angélus, voilà, l'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, cet Angélus qu'on entend aussi sur Radio Présence à midi. Et donc, eh bien, l'objectif est tout simple, c'est de dire chaque jour notre confiance et notre amour envers la Vierge Marie, mais c'est aussi d'être liés les uns aux autres par cette prière. Ainsi, eh bien, chaque jour à midi, quand vous prierez l'Angélus, tout seul, avec votre conjoint, avec vos enfants, au travail peut-être, avec vos collègues, enfin, quand vous prierez l'Angélus chaque jour à midi, vous saurez que partout dans le diocèse, il y a plein d'autres personnes qui prient l'Angélus, et ça vraiment un fruit énorme, ça s'appelle la communion. Et voilà l'invitation de notre évêque, eh bien, inscrire cette petite habitude de manière vraiment durable dans notre vie spirituelle et diocésaine.
On poursuit l'agenda avec un concert qui est proposé dans le nord du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, c'est à Vic-en-Bigorre dimanche.
Voilà, vous pourrez entendre Chœur Sol en Sol, le chœur d'Ourcebelil, en concert dimanche 19 avril à 17h en l'église Saint-Martin, c'est l'église paroissiale à Vic-en-Bigorre. Ce sera un concert dirigé par Sarah David Philo avec Michel Cueil au piano. Vous pourrez entendre Schubert, Rameau et d'autres œuvres. Et ce concert est au profit du Secours catholique. Rendez-vous donc à 17h dimanche 19 avril en l'église Saint-Martin à Vic-en-Bigorre.
Et enfin, on termine cet agenda en signalant que les confirmations, la période des confirmations commence ce week-end.
Exactement, avec les confirmations des jeunes ce samedi soir à 18h en l'église paroissiale de Lourdes, et puis dimanche 19 avril à Saint-Lary, d'autres jeunes seront confirmés, recevront l'Esprit-Saint. Donc voilà, on confie tous ces jeunes au Seigneur et on se réjouit, après s'être réjoui des nombreux baptêmes d'adultes à Pâques, eh bien on se réjouit aussi de la confirmation de tous ces jeunes. Voilà, dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Donc samedi soir à Lourdes et dimanche à Saint-Lary-Soulan.
Voilà pour une partie de l'agenda du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. L'actualité et l'agenda, on peut retrouver tout ça sur les différents outils de communication, et notamment le site internet ou l'application Au Clocher.
Exactement, n'oubliez pas que vous pouvez aussi contribuer à cette application Au Clocher, à l'agenda sur le site internet du diocèse, en envoyant vos informations, voilà, vos initiatives, vos invitations de prières ou autres concerts. N'hésitez pas à envoyer tout cela à communication@catholique65.fr.
Un grand merci, Anne-Rose Jankovic. Anne-Rose, vous restez avec nous, puisque dans un instant, eh bien, on va partir à côté de Tarbes pour parler de la STIA, de cette grande fête populaire.
Oui,
ce week-end, ça va se passer, hein. On va fêter la culture gasconne à côté de Tarbes.
Exactement, et j'en parle dans un instant avec mon invité Mathieu Carassus, qui est président de la STIA de Bigorre. C'est la 47e édition, c'est dire si en Bigorre, on aime promouvoir la culture. Alors, et la culture, ça passe par le chant, par les contes, par la danse et aussi par la garbure. Il va tout nous dire dans quelques minutes.
Et voilà, c'est à écouter dans moins d'une minute, à tout de suite. Donc, Andro, cette fois-ci en studio, mais il faut expliquer à nos auditeurs que vous l'avez enregistré, parce que sinon...
J'ai enregistré hier, et puis en deuxième partie de l'émission, vous pourrez entendre... l'entretien enregistré il y a quelques instants avec notre séminariste libanais qui est originaire du Liban, Elias, voilà, qui est à Saint-Antoine, la paroisse Saint-Antoine à Tarbes.
Merci Anne-Rosa et à tout de suite.
Merci.
Vous souhaitez joindre Radio Présence ? C'est très simple. Par mail, contact@radioprésence.com. Par courrier, 4 rue des Feuillants, 31300 Toulouse. Par téléphone au 05 62 48 63 00. Et enfin, vous pouvez interagir sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Twitter.
Radio Présence à Belmont-sur-Rance, 93.1.
Bonjour Mathieu Carassus.
Bonjour Anne-Rose.
Mathieu Carassus, vous êtes président de l'association La Estéiade de Bigorre depuis 2014. La Estéiade de Bigorre, eh bien, c'est un festival, une ode à la culture occitane. On pourrait dire ça comme ça. C'est la 47e édition qui se prépare. Ça a lieu ce week-end, 17, 18 et 19 avril à Ibos, c'est juste à côté de Tarbes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a derrière ce mot Estéiade de Bigorre? D'abord, ça veut dire quoi, La Estéiade?
Alors, La Estéiade, ça veut dire la fête, ça veut dire la grande fête. C'est une fête populaire qui existe depuis 1978 à Ibos, à côté de Tarbes, et qui a été créée pour promouvoir, maintenir et mettre en valeur la langue gasconne dans son dialecte du Bigorre et plus largement occitan.
Ça veut dire que pendant 3 jours, on parle occitan?
On parle occitan, tout à fait, et on vit occitan.
C'est-à-dire, ça veut dire quoi, on vit
Alors,
occitan?
C'est-à-dire, la Estéiade, c'est aussi tous les us et coutumes qui se rapportent à sa culture, donc le chant, la danse, le parler, bien sûr, le conte, la musique.
Donc, il y a un programme établi autour de ces piliers là que vous venez de citer. Ça veut dire qu'il y en a pour tous les publics, petits et grands. Comment ça se passe pendant 3 jours concrètement?
Voilà. Alors, on commence le vendredi soir par un bal gascon qui ouvre la fête avec
danse traditionnelle
de Gascogne. Donc, deux groupes, Parpaillou et Esberoy, qui sont des groupes de musique traditionnelle avec des instruments traditionnels. Le samedi après-midi, ça sera l'après-midi destiné aux enfants, avec à peu près 200 enfants qui participeront cette année, issus de quelques groupes qui sont particulièrement des classes bilingues ou des écoles immersives. Et le soir, la Serra de Desguillas, c'est la soirée destinée aux jeunes, aux ados et aux jeunes adultes.
Vous êtes en train de nous dire, Mathieu Carassus, qu'ici, en Bigorre, il y a des enfants et des adolescents qui non seulement s'intéressent à la langue occitane, mais en plus l'apprennent.
Tout à fait. Il y a dans le département différentes écoles primaires qui proposent des enseignements en bilingue, en classe bilingue, mais également des écoles dites immersives, les calandrettes, qui permettent aux enfants d'apprendre en occitan et en français.
Ce sont des enfants et des jeunes qui baignent dedans depuis qu'ils sont tout petits, voire peut-être qui parlent l'occitan à la maison.
Tout à fait, avec des familles qui sont sensibilisées, mais également des familles qui ont un attrait pour la culture occitane et qui veulent sensibiliser leurs enfants.
Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez que ça passe pas de mode, finalement? 47e Estéiade de Bigorre, si vous continuez, c'est qu'il y a du monde. Comment ça se fait, ça?
Alors, je pense qu'il y a un renouveau qui s'est créé dans les jeunes générations depuis quelques années et qui ont envie de savoir d'où ils viennent, et car pour savoir d'où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc il y a un renouveau dans les jeunes générations d'être accroché à ceux qui nous portent, d'où on vient.
Voilà, donc si on veut vraiment s'en rendre compte, il faut venir le samedi, donc il y aura ces enfants et puis ces jeunes. Le dimanche, c'est ouvert plus largement?
Alors le dimanche, oui, c'est la grande après-midi de fête de la Estéiade. C'est, on va dire, le sommet de la fête qui réunira cette année 37 groupes différents et 9 conteurs qui sont issus de tout le département, des chorales de tout le département, mais aussi des départements limitrophes comme les Pyrénées-Atlantiques et la Haute-Garonne.
Dans toutes les Hautes-Pyrénées, Pyrénées, il y a des chœurs. Alors, c'est pas seulement des chœurs d'hommes, hein, ça c'est important de le dire. Il y a des chœurs, il y en a beaucoup, des chœurs d'hommes, mais il y a aussi des femmes. Puis il y a des chœurs mixtes.
Il y a des chœurs d'hommes, il y a des chœurs de femmes, il y a des chœurs mixtes. Et tous se réunissent pendant cet après-midi pour partager leur même amour du chant et en particulier la culture.
Est-ce que d'une vallée à une autre, d'un coin à un autre de la Bigorre, il y a une manière même de chanter ou un rythme ou des mots qui sont différents?
Non, je pense pas. La tradition vocale dans les Hautes-Pyrénées est une tradition qui remonte fort longtemps. Elle s'immisce vraiment dans les vallées depuis très longtemps. Donc c'est le dialecte est le même, mais il peut y avoir des mots qui diffèrent entre vallées.
Voilà, alors faut quand même dire ou redire que c'était vraiment, c'est depuis toujours une manière aussi de transmettre l'histoire. Alors l'histoire des bergers, de la bergère et des galants, mais pas seulement. Il y a vraiment toute l'histoire de nos villages, de nos vallées qui passe par ce chant. Hein.
Tout à fait. Il y a beaucoup de chorales depuis 47 ans qui ont eux-mêmes créé des chants. C'est environ 150 créations qui ont été faites par des hommes et par des femmes de Bigorre pour enrichir le répertoire et voilà, parler de leur village, parler de la vie, parler des traditions.
C'est un concours le dimanche après-midi
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une fête, donc tout le monde a le droit d'y participer. Il n'y a pas de classement. Voilà. Et c'est pour vraiment promouvoir et faire revivre cette culture et cette langue.
Alors, on n'a pas dit que le dimanche matin, il y a la messe chantée en gascon dès 10h. Alors, là aussi, ça doit être quelque chose d'assez impressionnant.
Voilà, une autre forme de communion à partir de 10h. Pour la 17e année, on propose une messe en gascon qui est chantée et édite tout en gascon et avec l'intervention également d'un groupe qui s'appelle Claribari et qui promouvoit les instruments traditionnels de Bigorre.
Est-ce que chaque année le programme de l'Estéade est le même ou depuis 47 ans il y a des points qu'on évolue? Comment on fait évoluer une telle proposition puisque on est sur une culture à transmettre, une culture authentique? Pour autant j'imagine que bien au fil des années il faut agrémenter pour convenir au mode.
C'est ça, c'est une culture vivante, donc elle évolue, ouais. les mentalités également évoluent. Donc le programme est sensiblement le même, chacun a sa place dans le programme du week-end pour pouvoir exprimer ses différentes sensibilités du chant et du gascon. Mais on doit s'adapter bien sûr au public qui peut varier, et également aux acteurs qui peuvent attendre des nouvelles choses d'une organisation comme l'Estéade.
On marque une petite pause, Mathieu Carassus, puis on se retrouve dans un instant. On va parler notamment de ce public que vous attendez ces 17, 18 et 19 avril.
Voilà, pour la Estéade, donc à Ibos, à côté de Tarbes. Et cette pause, on va la marquer avec Le Berger d'Or, cette chanson bien connue en Bigorre.
Marché du Montez
Chanson bien connue en Bigorre et même au-delà. C'était un instant le berger d'or, les sentiers du Moudan. Retourne à côté de Tarbes à Ibos pour parler de la 47e édition de la STIA de ce week-end.
Nous sommes avec Mathieu Carassus, président de la Esteyade de Bigorre depuis 2014. Ce week-end, c'est la 47e édition de cette Esteyade de Bigorre. C'est une fête populaire créée donc en 1978 et dont l'objectif est de promouvoir la culture occitane. Alors, on a bien compris, Mathieu Carassus, que le programme est très chargé, que pendant 3 jours, il y aura diverses manifestations qui nous montreront à quel point la culture occitane est bien vivante et se transmet de génération en génération, puisque vous nous avez dit que même des enfants et des ados participaient activement. Quid du public? Qui est-ce qui vient voir, écouter? Parce que vous parlez occitan pendant 3 jours, mais quand on n'est pas du tout baigné dedans, quand on ne connaît rien, est-ce qu'on peut venir? Est-ce qu'on a notre place? Est-ce qu'on va s'y retrouver si on n'y connaît rien?
Tout à fait. Alors, le public est très éclectique durant tout le week-end. Il va y avoir des danseurs, il va y avoir des gens, des locuteurs de la langue bigourdane, mais aussi des curieux et des personnes qui veulent également connaître, s'informer et s'imprégner de cette culture qui existe dans le département où ils vivent. Donc, tout le monde a sa place à la Esteyade. Nous essayons tant faire se peut de se faire comprendre également du public qui n'est pas locuteur de cette langue.
Alors, il faut dire que même l'affiche et le programme sont publiés en occitan. Alors, si on cherche bien, on trouve la traduction quand même. Alors, cette culture occitane, gasconne, elle passe par le chant, on a bien compris. Elle passe par la danse, par les contes, et puis elle passe aussi par le repas quand même. Il faut dire sur place, il sera possible de déguster notamment la fameuse garbure.
Voilà, c'est ça. Des menus qui sont faits de d'ingrédients locaux, de mets locaux, comme la garbure, le haricot tarbé, bien sûr, les manchons de canard. Donc, il est possible de se restaurer le dimanche midi pour un repas, et également le dimanche soir avec une restauration plus rapide sur le site de l'Esteyade.
Il faut s'inscrire.
Voilà, tout à fait. Pour le repas du dimanche midi, il vaut mieux s'inscrire.
Donc il faut aller sur le site internet esteyade.fr et tout est indiqué, le programme, les modalités pour s'inscrire donc à ce repas du dimanche midi. Mathieu Carassus, je voudrais qu'on parle un petit peu de vous. Vous êtes président de cette association depuis 2014. Vous m'avez dit en préparant cette émission que vous êtes dedans, vous baignez dans le bain de la Esteyade depuis l'âge de 7 ans.
Oui.
Alors, racontez-nous un petit peu cette aventure. C'est une aventure personnelle aussi, du coup.
Oui, tout à fait. Moi, je suis né dans une famille très investie dans le domaine de la culture et notamment de la danse traditionnelle. C'est ma sœur qui a commencé cette aventure. Mes parents ont suivi et moi, quand je suis né, je suis né dans la marmite. Dès l'âge de 7 ans, quand nous sommes arrivés à Ibos, j'ai été imprégné de cette culture, puisque le village d'Ibos est quand même valorise beaucoup la culture, tant par le bâti que par les expressions artistiques.
Qu'est-ce que vous aimez dans cette culture? Alors, bien sûr, c'est votre culture, mais qu'est-ce qui vous tient aux tripes au point d'y passer autant de temps? Parce qu'on imagine, alors vous n'êtes pas tout seul, il y a une centaine de bénévoles mobilisés pour la Esteyade, mais qu'est-ce qui fait que chaque année vous dites, je vais y passer du temps, de l'énergie?
Personnellement, je trouve que c'est une culture qui rassemble les personnes, des personnes de tout âge. Je suis très attaché à tous les patrimoines dans leur ensemble et ce qui me porte vraiment, c'est que cette culture reste vivante, qu'on puisse la transmettre.
Avec quoi vous aimeriez qu'on reparte? Moi, par exemple, qui ne suis pas bigourdane, même si j'ai peut-être un peu l'air de l'être parfois, je ne suis pas bigourdane, je débarque à l'Esteyade. Qu'est-ce que vous aimeriez que je ramène chez moi ensuite?
Mais cette communion qui se passe notamment le dimanche après-midi, parce qu'il y a deux spectacles. Il y a un spectacle qui se passe sous le grand chapiteau où toutes les chorales et les conteurs se succèdent, mais après il y a la communion fraternelle qui se passe autour des espaces de buvette et de restauration. Donc un sentiment d'une famille soudée qui porte des valeurs et qui est prête à les partager.
C'est les fameuses canters, quand tout le monde chante comme ça spontanément.
Voilà, le chant spontané et partagé.
Voilà, et ça tout le monde peut participer, on n'a pas besoin d'être inscrit dans un chœur.
Tout à fait.
Allez, on va terminer, Mathieu Carassus. J'aimerais bien que vous nous lisiez la phrase qui est sur l'affiche, parce que moi, si je la dis, je vais mal la dire et on va avoir des coups de fil. Alors, ce serait bien que vous nous la lisiez et que vous nous disiez ce que ça veut dire, s'il vous plaît.
Portau qui desce passa u aire nabet, adar a ibos que la reste qui commence, cos e cos qu'entran amasse dans la danse, parenthèse gaius capa u monde meibet. Donc c'est un quatrain qui a été écrit par l'une de nos organisatrices. Le portail qui laisse passer un air nouveau. Aujourd'hui à Ibos c'est la fête qui commence. Le cœur entre ensemble dans la danse. Parenthèse joyeuse vers un monde plus beau.
Voilà, et pour goûter à ce monde plus beau, eh bien rendez-vous donc à Ibos, c'est juste à côté de Tarbes, ce week-end 17, 18 et 19 avril. Il y a un programme bien chargé, vendredi, samedi, dimanche. Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts, puisque voilà, il y a à entendre, à voir, à goûter, bien sûr, et à partager. Et toutes les informations sont, je le rappelle, sur le site www.esteilladebigorre.fr. Merci beaucoup Mathieu
merci
Carassus.
Voilà, merci à Mathieu Carassus et merci aussi à Anne-Rose Jankovic, voilà, qui a réalisé cet entretien donc à l'occasion de la STIAD de Bigorre, cette grande fête populaire de la culture gasconne en Bigorre ce week-end. La suite de cette émission à quasiment midi et demi, c'est le journal régional, un journal présenté aujourd'hui par Jenny Thiab, qui est étudiante au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse.
L'autorisation encadrant les travaux préparatoires de la ligne à grande vitesse Toulouse-Bordeaux est aujourd'hui dans le viseur de plusieurs collectifs. 16 associations du Sud-Ouest ont déposé un recours gracieux contre l'État pour demander l'annulation de l'autorisation environnementale signée en février dernier. Elles dénoncent des irrégularités juridiques et l'absence d'études sérieuses d'alternatives. Le club d'entreprise de l'Ouest toulousain organise sa 3e édition de Job Dating. Elle réunit une centaine de recruteurs. Les candidats peuvent découvrir la diversité des métiers locaux et échanger directement avec des décideurs pour une embauche rapide demain au hall Comminges de Colomiers de 10h à 18h. Le département de l'Ariège lance le passeport autonomie, un livret pratique destiné aux jeunes de 16 à 21 ans, suivi par l'aide sociale à l'enfance. Cet outil contient 7 fiches sur la manière de gérer un budget, de trouver un logement et de faire des démarches administratives. Lancé à Foix, ce dispositif sera déployé progressivement sur tout le territoire pour accompagner durablement ces jeunes vers l'indépendance. La région Occitanie lance Occitanie Bénévole, un plan pour aider les associations et encourager le bénévolat. Dans la région, 160 000 associations et 1,4 million de bénévoles sont présents, mais leur nombre baisse ces dernières années. Pour y répondre, la région prévoit plusieurs actions comme un portail internet pour faciliter l'accès aux informations entre bénévoles et associations, ou bien des interventions dans les lycées pour valoriser l'engagement. Ce mercredi, Auch reçoit 4 figures majeures de la Ligue nationale de rugby. L'ancien pilier Christian Califano, gagnant de 6 titres avec Toulouse, ouvre le bal. À ses côtés, les anciens internationaux Louis Picamol et Mathieu Bastaro, ainsi que l'arbitre professionnel Ludovic Kerr. Ces légendes du ballon ovale animent des ateliers pour 200 enfants des écoles de rugby à partir de demain. L'événement se prolonge jeudi où a lieu une rencontre avec des jeunes à la maison des adolescents pour évoquer les thèmes de la confiance, de la santé et de la gestion de la pression dans le monde du sport. Au château catalan de Saint-Aurin, à l'occasion du concours international et francophone Les Arts littéraires, le jury récompense 11 auteurs dans les catégories roman, théâtre et poésie. Parmi eux, Jimmy Dunal reçoit le prix de la ville pour son autobiographie. Émile Penat est distingué en théâtre, tandis que Nathalie Vincent Arnaud décroche le premier prix en poésie.
Voilà, et merci à Jenny Thiab, qui est étudiante au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. La suite de Présence Midi, dans un instant, c'est avec l'invité d'Anne-Rose Jankovic. Elle va recevoir Elias, qui est libanais et séminariste. Il va nous expliquer comment, depuis les Hautes-Pyrénées, il observe ce qui se passe au Liban.
Laudetur Jesus Christus.
Chaque jour, à 8h30, 13h et 18h, Radio Présence vous propose un tour complet de l'actualité nationale et internationale avec la rédaction française de Radio Vatican.
À Prague, pour Radio Vatican, Guillaume Normand.
Bernard, Delphine Darbelier.
Pierre Benazet, Bruxelles, pour Radio Vatican.
Moscou, Jean-Didier Revoin.
New York, Loïc Louré, Radio Vatican.
Sur Radio Présence, trois rendez-vous avec Radio Vatican à 8h30, 13h et 18h.
Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Bonjour Elias.
Bonjour Anne-Laure.
Elias, vous êtes séminariste dans le diocèse de Tarbes et Lourdes et vous êtes originaire du Liban. Aujourd'hui, je viens à votre rencontre ici à Saint-Antoine. C'est la communauté dans laquelle vous êtes en immersion depuis plusieurs mois, précisément pour que vous nous donniez votre témoignage, puisqu'on connaît l'actualité au Liban et dans tout le Moyen-Orient. Vous êtes Libanais, toute votre famille est au Liban. Alors voilà, c'est l'occasion à la fois de vous témoigner notre amitié pour vous et pour votre famille qui est là-bas et pour tout le peuple libanais, puis aussi d'essayer de mieux comprendre pour nous qui sommes ici qu'est-ce que le Liban et qu'est-ce qui s'y vit aujourd'hui. D'abord, est-ce que vous pouvez, en introduction, nous présenter votre pays? Qu'est-ce qu'il a de particulier et de beau, votre pays?
Je commence en rappelant la phrase que dans les années 50, on disait du Liban qu'il est la Suisse du Moyen-Orient. Le Liban est un pays tout petit, 1/7 de la région Occitanie. La France, elle est 50 fois plus grande que le Liban. Et il a des belles plages, la belle montagne et tout ça, de beaux climats. Et une communauté, les Libanais sont avec une diversité religieuse étonnante au Liban.
Il y a toutes les religions au Liban, un peu de chrétiens, mais il y a une majorité de musulmans.
Oui, tout à fait. Mais même les chrétiens, il y a 18 confessions entre l'Église catholique et dans le catholique, maronite, syriaque catholique, chaldéen et tout ça, et les orthodoxes et évangéliques, protestants. Et même pour les musulmans, il y a beaucoup de petits groupes.
Est-ce que vous diriez que cette réalité de différence de culte, de religion, elle est un peu l'ADN de la culture libanaise?
Oui, tout à fait. En soi, elle est tellement positive, mais elle peut se tourner directement à un aspect négatif, quand on a vraiment, ça ne tourne pas entre les communautés où il y a des problèmes.
Qu'est-ce qui fait que ça ne tourne pas ou que ça pourrait ne pas tourner? Aujourd'hui, on pense au Liban dans le contexte du conflit, mais le Liban n'a pas toujours été en conflit. Il y a des temps paisibles au Liban.
Oui, tout à fait. Mais on a subi, nous, au Liban, une guerre civile atroce depuis de 75 jusqu'à 90. Et c'était vraiment là une guerre civile. C'était nourri par un peu l'ego des chefs politiques et un peu qui mêlait à la religion, à l'identité religieuse et tout ça. Et on a payé des années de guerre à cause de ça.
Et puis on a l'impression que le Liban paye toujours beaucoup. Alors on pense aussi à l'explosion du port de Beyrouth, mais il y a toujours des épreuves qui s'abattent sur le Liban. Et on a l'impression que eh bien, le peuple libanais toujours a cette envie, de tant bien que mal, de continuer à avancer. Qu'est-ce qui fait tenir le peuple libanais?
Moi, je peux dire qu'on est un peuple résilient. Après toujours toutes les difficultés, on peut directement se relever et de continuer notre vie. Même avec tous les, soi-disant, les problèmes, même peut-être économiques, des blessures et tout ça. C'est vraiment d'être un peuple résilient.
Est-ce que c'est un pays qui souffre de pauvreté? Alors bien sûr, là, on est en période de guerre, mais hors guerre, malgré les difficultés économiques, est-ce que c'est quand même un pays qui sait évoluer d'un point de vue économique et culturel?
Le problème de Liban, c'est qu'il y a vraiment des classes sociales tellement séparées. On trouve la pauvreté extrême dans plusieurs régions du Liban, et plusieurs communautés, et puis la richesse extrême de l'autre part. C'est vraiment, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est un peu la réalité.
Et ça, c'est vrai partout, la différence, elle se voit surtout entre la ville et la montagne ou le monde rural?
Il y a un lien entre le monde rural et la ville, mais même avec les mentalités. Et puis, Tant qu'il y a appartenance là, idéologique même, au niveau politique, au niveau communautaire, religieux et tout ça, ça ne favorise pas vraiment le développement même économique et quoi que soit. Au Liban, même s'il y a beaucoup de riches, il y a beaucoup de Libanais à l'étranger, et beaucoup plus que les Libanais au Liban, mais il n'y a pas une sécurité sociale, par exemple, au niveau de l'État et tout ça. Un peu la corruption ne permet pas pour arriver à avoir des lois et tout ça.
Alors que de l'extérieur, eh bien, on est un peu ébloui par la culture libanaise qui rayonne. Effectivement, il y a beaucoup de Libanais qui vivent et qui travaillent en dehors du Liban, un peu partout dans le monde.
Oui, tout à fait. Et c'est grâce à eux que le Liban tient maintenant économiquement. Parce que imaginons-nous que toujours, ça suffit seulement que les Libanais à l'étranger de revenir au Liban durant les vacances et tout ça, il y a un fresh money, le liquide, argent liquide qui entre au Liban. Et ça permet à tout le cycle économique d'être épanoui.
Ouais, et ça c'est très important de le dire pour bien comprendre comment fonctionne le pays d'un point de vue économique. Alors ça c'était pour la présentation de votre pays. Maintenant, on va aborder le sujet un peu plus dur, cette guerre. Alors cette guerre depuis plusieurs semaines maintenant, le Liban est frappé par des missiles. On voit aux informations des images absolument terrifiantes. Et en fait, on comprend depuis chez nous, depuis ici, est visé le Hezbollah. Ce qu'on comprend moins, et peut-être que vous pourrez nous expliquer, pourquoi le Hezbollah est au Liban.
Alors, les Hezbollah sont des Libanais.
Les membres du Hezbollah sont des Libanais.
Oui, tout à fait. Alors, en tant qu'identité, ce sont des Libanais, comme moi-même, je suis Libanais. Et ils sont des chiites, parce que tous les Hezbollah, ce sont des chiites. Ils habitaient depuis toujours le sud du Liban. Et quand Israël est entré pour faire la guerre contre les Palestiniens dans les années 80, c'est en bref, si je peux expliquer, et ils ont subi un peu tout ça, l'occupation et tout ça. Et ça a créé une résistance, comme n'importe quelle résistance dans le monde, à l'époque du gouvernement de Vichy aussi en France et tout ça. Mais après, ça a commencé à avoir une idéologie que sans notre armée, le Liban ne sera pas sauvé. Ils ont monté en pouvoir même politique au Liban et est devenu un peu lié à l'Iran parce que pour eux, le chef, c'est le mullah de l'Iran. Comme pour nous, les catholiques, le pape, c'est notre chef. Pour eux, c'est là-bas. Et la différence de nous, que nous, notre pape, il n'entre pas dans nos affaires du Liban ou avec n'importe quel pays. Tandis qu'eux, ils reçoivent toutes leurs commandes de l'Iran. Et ça, avec les années et après la guerre de 2006. Et pour eux, ils étaient vraiment le victorieux et c'est une victoire divine pour eux. Pour cela, ils ont monté en créneau de pouvoir de tout le Liban, politique, même économique et tout ça.
Donc c'est un réseau qui est implanté dans le Liban, au sein du Liban depuis toujours. Ce sont des personnes qui vivent dans les villes, dans les villages. Vous-même, quand vous viviez au Liban, vous connaissiez des membres du Hezbollah?
Oui, les Hezbollah sont des Libanais, je répète, pour ne pas avoir une ambiguïté de...
Et qui vivent normalement avec le reste du peuple libanais.
Oui, moi quand je faisais mes études à la faculté, j'avais des amis chiites qui sont ok pro-Hezbollah parce que ce sont des chiites. Et pas tout le monde qui est méchant, pour dire, au niveau de citoyens et tout ça, c'est pas qu'il y a méchanceté ou pas. Mais en tant que mentalité maintenant, dans les dernières années, ça montait plus que seulement défendre le Liban, d'être résistance contre Israël. Et ce peut être un droit, mais ça montait pour soutenir Gaza, pour soutenir l'Iran et tout ça. Ils font entrer le Liban dans une guerre qui n'est pas la sienne.
Et donc ça entraîne aussi le reste du peuple libanais.
Tout à fait. Parce que maintenant, tout le Liban subit ça. Déjà, les villages, les 1,2 million déplacés, ce sont la majorité des chiites. Ils viennent dans les autres régions. Eux-mêmes, ils subissent vraiment la misère maintenant. Mm. Ils ne sont pas même ni bien logés, ni bien nourris, ni rien. Et c'est un poids sur tout le Liban.
Votre famille qui est là-bas, elle est dans quelle partie du Liban? Est-ce qu'elle est au milieu de ces réalités que vous nous décrivez? Est-ce qu'elle fait partie des plus d'un million de personnes déplacées?
Non, alors ma famille, moi je viens d'une région un peu au centre du Liban, 30 km nord Beyrouth. C'est une région un peu tranquille parce que c'est une région à peu près majoritairement chrétienne. Là, à côté de moi, à quelques kilomètres, il y a la Nonciature apostolique, Sanctuaire Notre-Dame du Liban, le patriarcat maronite, celui syriaque et tout ça. C'est une région un peu loin de tout ce qui est problématique.
Donc vous nous dites, Elias, qu'aujourd'hui au Liban, il y a encore quelques petits bouts de territoire qui sont un peu à l'abri des bombes et des combats, et que les chrétiens sont moins impactés.
On peut dire oui, parce que les chrétiens de Beyrouth, ils sont impactés, en tout cas.
Oui.
Parce que le problème maintenant, ou la réalité...
C'est quand une bombe explose, elle explose sur tout le monde.
Oui. La réalité qu'il y a même maintenant dans la guerre des chefs de Hezbollah qui se cachent dans les autres régions. Oui. Prenons un exemple, mais c'est concret. Si un chef de Hezbollah, il vient à louer un appartement dans le meuble de ma famille, par exemple, et Israël veut le viser parce qu'il est un chef de Hezbollah, mais il n'a pas dit à nous que sa présence parmi nous est un risque. Israël frappe tout l'immeuble et toute la famille et tout ça seront morts. Et ça, c'est un peu le risque aujourd'hui au Liban.
Vous recevez là des nouvelles, des témoignages alors, de votre famille ou d'amis qui sont inquiets de ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils vous donnent des nouvelles? Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Alors oui, les témoignages. Ma famille, dans ma région, tous les soucis maintenant, c'est vraiment avoir manque de nourriture et tout ça, si vraiment Israël continue à occuper ou elle menace de frapper l'aéroport ou le port et tout ça. Et au Liban, on craint pas seulement une famine, une guerre civile. Parce que, je parle objectivement maintenant, l'État libanais, en tant qu'État libanais, le gouvernement, le président et le premier ministre, ils ont dit que Hezbollah n'a pas le droit d'avoir de l'armée et de combattre au nom du Libanais. Et Hezbollah refuse ça, parce que pour lui, c'est vraiment une chose indiscutable, non négociable. Aujourd'hui même, à Washington, ça commence des négociations directes entre Liban et Israël. Hezbollah, il a refusé totalement ça. Et pour cela, il peut, par la force d'essayer de faire chuter le gouvernement et tout ça, et faire un peu des problèmes au niveau interne. Et c'est la peur la plus grande que le bombardement d'Israël.
Ça veut dire qu'on ne peut rien attendre de ces discussions, de ces négociations qui vont avoir lieu aujourd'hui aux États-Unis entre Israël et le Liban. Si le Hezbollah ne veut pas en faire partie, être partie prenante, les discussions ne pourront pas aboutir.
Oui, sauf si... alors, Hezbollah, il est l'allié de l'Iran. Si l'Iran vraiment arrive à faire un accord avec les États-Unis, et il dit à Hezbollah, calmez-vous, ok, retirez même les armées, vivez seulement pour de la politique, parce qu'ils ont le droit d'exister politiquement parlant. Parce que, je répète, ils sont Libanais, comme moi.
Tous. Ils ne sont pas rejoints par d'autres personnes de d'autres pays.
Non, pas du tout. Les chiites au Liban sont la majorité maintenant en tant qu'effectif. Ils sont plus nombreux que les sunnites, les autres musulmans, et plus nombreux que tous les chrétiens. Pour cela, ils sont libanais. Mais le problème, c'est l'armée, la décision d'entrer en guerre ou pas, qui doit être dans les mains de l'État libanais, pas dans leurs mains. Si la seule espérance d'accepter à laisser les armées, je pense moi-même que les négociations n'aboutiront à rien et même la situation se complique. Et on craint qu'Israël elle a mis ses intentions d'occuper le sud du Liban. Et là, c'est pas bon même, parce que c'est un terrain libanais.
Vous, aujourd'hui, vous voyez des perspectives de paix. Vous avez de l'espérance pour le Liban et pour la situation plus large que ça, au-delà du Liban, puisqu'on voit bien qu'il n'y a pas que le Liban qui est en jeu. Quelle est votre espérance? Est-ce que vous pouvez encore avoir de l'espérance quand vous voyez la situation?
Alors moi, je tiens mon espérance vraiment de ce qui vient de dire notre pape Léon XIV, que cesser la guerre, non pour la guerre et tout ça. Et je rejoins même le communiqué de presse de cardinal Avelin, parce que on a besoin vraiment de calme là-bas, pour ne pas prendre le Liban en otage et puis ne pas avoir des frappes n'importe quoi de l'autre côté. C'est un processus peut-être c'est long et compliqué, mais oui, on tente tout le monde à avoir un Moyen-Orient vraiment plus calme, plus beau.
En fait, j'ai l'impression quand je vous écoute que la paix dans tout le Moyen-Orient dépend un peu de la paix à l'intérieur même du Liban. S'il y a la paix dans le Liban entre les différents groupes que vous nous avez cités, eh bien, ça sera une paix qui rayonnera pour tout le reste du Moyen-Orient.
Oui, tout à fait, parce que le Liban, même s'il est petit, il est toujours le bouc émissaire de tout le monde. Comme il y a la pluralité, même à l'époque de l'ISIS, il y avait des groupes un peu de pro-ISIS au Liban, de petits groupes qui faisaient même des problèmes là-dedans. Et voilà, si le Liban il va bien, je pense que toute la région va bien.
Il y a beaucoup de personnes ici qui vous connaissent, qui prient pour le Liban et puis pour toutes les personnes qui souffrent, tous les pays qui souffrent de cette guerre. Quel message vous voudriez faire passer alors aux auditeurs de Radio Présence et puis là aux fidèles du diocèse qui vous connaissent, qui vous témoignent leur affection, leur soutien. Pour conclure, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire?
Moi, je remercie tout le monde parce que quand ça a commencé la guerre, il y a un peu de temps, j'ai reçu plein de textos de bannières de Bigorre, la paroisse que j'étais l'année avant, en insertion, et des Tarbes, et même de tout le diocèse, les personnes que je connais. C'était vraiment un soutien pour moi. Et c'est un dire oui de la part des Français de ce diocèse que nous sommes accueillants envers toi. Et je remercie tout le monde et je demande toujours à tout le monde de prier toujours pour le Liban. Et voilà, parce que la prière, c'est un signe d'amour envers l'autre. Et on a besoin de l'amour par contrepoids de la haine qui est là-bas au Moyen-Orient.
Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion d'interviewer Sœur Claire Emmanuelle, qui est une religieuse de Saint-Fray, qui est à Jérusalem et qui s'occupe de l'EHPAD, qui s'occupe des personnes âgées à Jérusalem. Je lui ai demandé, mais est-ce que dans ce contexte, c'était tout le début du conflit, est-ce que vous n'avez pas envie de revenir? Est-ce que vous ne vous dites pas que vous seriez mieux ici en France? Ce à quoi elle a répondu que sa place était là-bas. Mais j'ai envie de vous posez la question aussi à vous, Elias. Est-ce que vous ne vous dites pas parfois que, puisque vous êtes Libanais, vous aimeriez être avec le peuple libanais qui souffre pour le soutenir en étant sur place?
Alors moi, mon discernement, ma vocation d'être là en France, c'était même avant la guerre. Et je suis en discernement toujours. J'avance pour être prêtre dans le diocèse de Tarbes-Lourdes. Pour cela, c'est un appel spécifique pour moi. Je vois avec mon accompagnateur spirituel, avec les autorités du diocèse et tout ça. Je suis content d'être là. C'est ma vocation. Mais ça ne dit pas que je n'aime pas mon pays, pas du tout. Toujours je suis en communion avec toute ma famille. Je prie pour le Liban. Je serais tellement content de visiter le Liban une fois par an au moins pour d'être là un peu. Et voilà. Mais c'est pas pour dire que parce qu'il y a la guerre, je dois maintenant abandonner tout mon appel d'être prêtre ici en Bigorre pour aller vivre au Liban.
Merci beaucoup Elias pour votre témoignage, vous qui êtes séminariste libanais mais séminariste du diocèse, pour le diocèse de Tarbes et Lourdes. Merci beaucoup pour vos réponses.
Merci à vous.
Présence à Aurignac 94.1.
Seigneur de ta beauté, mon âme s'est éprise. Je veux te prodiguer mes parfums et mes fleurs en les jetant pour toi sur l'aile de la brise. Je voudrais enflammer les cœurs, jeter des fleurs, c'est t'offrir en prémisse les plus légers soupirs, les plus grandes douleurs, mes peines et mes joies, mes petits sacrifices. Voilà. Des fleurs caressant ton visage te disent que mon cœur est à toi sans retour. De ma rose effeuillée, tu comprends le langage et tu souris à mon amour. Jeter des fleurs, redire tes louanges, voilà mon seul plaisir en la vallée des pleurs. Au ciel, j'irai bientôt avec les petits anges. Jeter des fleurs. Thank you. pétales des fleurs, caressant ton visage, te disent que mon cœur est à toi sans retour. De ma rose effeuillée, tu comprends le langage et tu souris à mon amour. Jeter des fleurs, redire tes louanges, voilà mon seul plaisir en la vallée des pleurs. Au ciel, j'irai bientôt avec les petits anges. Jeter des fleurs, jeter des fleurs, c'est offrir en prémisse les plus légers soupirs, les plus grandes douleurs, mes peines et mes joies, mes petits sacrifices. Voilà mes fleurs.
Office de tourisme de Lourdes.
Direction Lourdes et la place Marcadale avec Julie de l'Office de tourisme de Lourdes. Bonjour Julie.
Bonjour Gilles.
Je le disais, donc la place Marcadale, on va peut-être rappeler où elle se trouve. Elle est en plein centre à Lourdes.
Exactement, elle est en plein centre-ville de Lourdes. Et la place Marcadale, historiquement, elle n'était pas si centrée. Finalement, elle était autrefois un peu excentrée. Elle était en dehors de l'enceinte fortifiée de la bourgade de Lourdes. Et c'est la place depuis l'an 1020, la place du marché historiquement. Le marché qui avait lieu tous les 15 jours, toujours en alternance avec le marché de Tarbes. Ce marché sur la place Marcadale s'est allé jusqu'à la place qui s'appelle la place du Porche. Et le marché était un petit peu stoppé à ce niveau-là par l'ancienne tour qui trônait sur cette place. Une tour ancienne qu'on ne voit plus aujourd'hui sur la place du Porche. Plus tard, avec le développement de la bourgade, le marché pose problème, puisque tous les notables de la ville vont construire leurs jolies maisons cossues autour de cette place. On en voit encore de très belles. Et là, ça va poser problème, puisque les notables ne veulent plus trop du marché qui fait un peu tache. Ils ne veulent plus d'étal devant leurs portes. Donc là, le marché doit déménager. Et c'est maintenant, il prend place là où on le connaît maintenant, sur la place du Champ commun.
En prolongement de cette place Marcadale, on pouvait retrouver à l'époque l'église Saint-Pierre.
Exactement, l'ancienne église Saint-Pierre qu'on ne voit plus aujourd'hui, qui elle aussi était à l'extérieur des remparts, délimitée par la rue actuelle des Petits Fossés. À l'origine, il y avait une première église paléochrétienne déjà à cet emplacement, et c'est à partir du XIe siècle que l'église romane fut construite par-dessus. Il y avait tout autour une nécropole de sarcophages en pierre qui venait notamment des carrières du Béhout et qui sont toujours conservées au niveau du château fort, musée pyrénéen. Et en 1991, avec les travaux au niveau du parking souterrain, on a découvert aussi des fondations d'une ancienne tour carrée qu'il y avait à cet emplacement, et aussi un carrefour de voies antiques datant de l'époque gallo-romaine. Donc c'était vraiment l'emplacement du forum romain et le cœur du bourg antique.
Donc on l'a dit, cette église de Saint-Pierre a disparu et une nouvelle église a été construite.
C'est ça. En fait, après les événements à la grotte en 1858, le curé, que l'on appelle encore le curé des apparitions, Marie-Dominique Peyramale, veut d'une église paroissiale beaucoup plus grande et juge l'église Saint-Pierre trop petite et trop vétuste. Elle est détruite entre 1904 et 1907 pour être remplacée finalement par l'église actuelle, l'église paroissiale du Sacré-Cœur, dont la construction commence à partir de 1875 et selon les plans de l'architecte Édouard Delebarre de Bé. Mais par manque de fonds et quelques mésaventures, les travaux sont interrompus et elle est finalement à peu près achevée en 1903. Elle est longtemps restée sans clocher qui a lui été rajouté en 1936.
Et des travaux de rénovation sont toujours en cours aujourd'hui.
Exactement, elle a quand même pris mal pendant cette période où elle n'a pas été terminée. Il y a quand même eu pas mal d'infiltrations d'eau, il y a quand même eu des parties qui ont été endommagées et abîmées. Et depuis quelque temps, des travaux de restauration sont en cours sur l'église du Sacré-Cœur, qui va être à nouveau magnifique. Elle est notamment connue et pas mal visitée par les visiteurs de Lourdes grâce aux fonts baptismaux qui y sont conservés. Ce sont des fonts baptismaux qui datent de l'époque de l'ancienne église de Saint-Pierre qui était dans cette église et sur lesquels a été baptisée Sainte Bernadette notamment et qui sont maintenant dans cette église du Sacré-Cœur. On trouve aussi à l'église du Sacré-Cœur, dans la crypte, le tombeau du curé Peyramale.
Voilà, la place Marcadale à Lourdes nous a amené donc à l'église du Sacré-Cœur donc à Lourdes. Il me reste qu'à vous remercier, Julie. Je rappelle que vous faites partie de l'Office de tourisme de Lourdes et on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle chronique Balade en Pays de Lourdes. Merci Julie.
Merci beaucoup, bonne journée.
Balade en Pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Je me souviens d'un arbre, je me souviens du vent, de ces rumeurs de vagues au bout de l'océan. Je me souviens d'une ville, je me souviens d'une voix, de ces Noëls qui brillent dans la neige et le froid.
Je me souviens d'un rêve, je me souviens d'un roi, d'un été qui s'achève, d'une maison de bois. Je me souviens du ciel, je me souviens de l'eau, d'une robe en dentelle déchirée dans le dos.
Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort la peine, c'est de ne plus voir mon père qui danse. Je me souviens d'un phare, je me souviens d'un signe, d'une lumière dans le soir, d'une chambre anonyme. Je me souviens d'amour, je me souviens des gestes, fiacre du retour, le parfum sur ma veste.
Je me souviens si tard, je me souviens si peu, de ces trains de hasard d'un couple d'amoureux. Je me souviens de Londres, je me souviens de Rome, du soleil qui fait l'ombre, du chagrin qui fait l'homme.
Ce n'est pas du sang, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort qui me fait la peine, c'est de ne plus voir mon père qui danse. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière.
Présence à Gourdon 104.8 Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Léon XIV, sur les pas de Saint-Augustin, le pape est aujourd'hui à Annaba, l'antique Hippone, c'est là qu'il s'est